Parlons maintenant recherche sur le coronavirus avec un chercheur de l'Université Laval. Il est médecin spécialiste à l'hôpital de l'Enfant Jésus du CHU de Québec, Dr. Alexis Turgeon. Bonjour.
Bonjour, M. Duhaime.
Donc, Dr. Turgeon, on vous parle aujourd'hui parce que vous avez fait des recherches, des essais cliniques de deux traitements prometteurs contre la COVID-19 qui sont supervisés donc par vos recherches. Pouvez-vous nous dire, grosso modo, c'est quoi les traitements potentiels pour guérir la COVID? De quoi il s'agit, là?
En fait, on est en train d'amorcer ces deux essais cliniques-là sur deux interventions qui sont parmi les plus prometteuses actuellement, c'est-à-dire les plasmas de convalescents. Le plasma de convalescent, ça veut dire des anticorps ou des plasmas d'un donneur qui est une personne qui a eu la COVID, qui en a guéri et dont le système immunitaire a produit des anticorps. Donc, c'est de prendre ces anticorps-là, d'en faire dans un plasma et de les donner à des patients qui sont très gravement malades.
Là, j'essaie juste de vulgariser, Dr. Turgeon, là, c'est parce que c'est comme la personne, elle a des anticorps, donc elle a développé comme quelque chose qui combat, qui va tuer le coronavirus quand elle est en contact avec. Et là, vous essayez d'isoler ce qu'il y a dans son plasma, dans son sang ou je sais pas quoi. Et vous essayez d'isoler c'est quoi ce combattant-là qui tue le coronavirus pour essayer de le reproduire. Est-ce que je vulgarise bien ou
exactement,
pas ça?
Exactement, vous êtes un excellent vulgarisateur. Okay, bon. En fait, c'est un produit sanguin. C'est comme les plasmas qu'on donne, que plusieurs des auditeurs probablement sont des donneurs de sang ou des donneurs de plasma. C'est exactement la même chose, sauf que là, on les prend chez des gens qui ont eu la COVID, donc qui ont formé des anticorps, développé des anticorps contre la COVID, comme on fait pour n'importe quelle infection virale.
Puis ça, c'est pas un vaccin, c'est pas un traitement, c'est juste d'essayer de l'isoler pour savoir c'est quoi qui nous permet de tuer le virus.
Exactement. En fait, le vaccin, lorsqu'on aura un vaccin, souhaitons-le qu'on l'ait le plus rapidement possible, va permettre à notre corps de générer des anticorps contre le virus, comme si on avait eu le SARS-CoV-2, là, le nom du coronavirus qui donne la COVID. Et en attendant, avec cette intervention-là, c'est qu'on va chercher les anticorps chez les gens et on va les donner à des patients gravement malades.
Mais ça, si jamais ça réussit, là, on se comprend que c'est juste pour un petit nombre de patients parce que vous ayez des gens qui l'ont déjà eu puis qui ont les anticorps, vous ne pouvez pas faire un vaccin universel et donner ça à tout le monde, même si vous êtes capable d'isoler ce qui tue le virus, là, c'est ça? Ou sinon?
Exactement. En fait, c'est les deux interventions qu'on étudie, les deux essais cliniques, ce sont les plasmas de convalescents, donc on donne des anticorps, et l'autre intervention est un anticoagulant. Autrement dit, on éclaircit le sang. Deux interventions complètement différentes qui agissent de deux façons différentes. Les anticorps vont neutraliser le virus, théoriquement, mm-hmm. alors que les anticoagulants vont traiter une complication très, très grave de la COVID-19, qui est les thromboses ou les caillots sanguins dans les petits vaisseaux qui peuvent faire qu'on fait soit un infarctus ou qu'on fait des embolies dans les poumons qui peuvent être la cause des décès chez les patients qui sont gravement malades, admis à l'unité des soins intensifs. C'est ceux-là qui nous intéressent. Les patients les plus malades sur respirateur qui ont une mortalité très élevée jusqu'à, je dirais, 40 à 50 %.
Fait que là, eux, vous essayez de leur éclaircir le sang pour pas que ça fasse de caillots. Grosso modo, c'est
exactement.
Ça.
Donc, il y a à la fois une intervention, un essai clinique qui vise à étudier les plasmas, et l'autre essai clinique vise à éclaircir le sang, donc à étudier l'effet des anticoagulants. Et donc, on fait deux études en une à l'intérieur d'une plateforme d'essai clinique qui s'appelle REMAPCAP et qui est internationale. Donc, ça vient d'une collaboration avec des collègues de partout à travers le Canada, d'ailleurs en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, et qui a été développée après le H1N1. Les médecins spécialistes en soins intensifs, on se connaît beaucoup à travers le monde, les gens qui font de la recherche dans le domaine, et on s'est concerté pour avoir une plateforme qui soit active en cas de pandémie. Et c'est pour ça qu'on est en mesure de très rapidement faire de la recherche sur des interventions qui sont potentiellement utiles pour traiter une maladie comme ça qu'on ne connaissait pas il y a 6 mois.
Mais non. Fait que là, vous êtes connecté, là, vous faites des appels conférences ou des FaceTime ou je ne sais pas quoi, là, avec des chercheurs dans d'autres pays, puis vous partagez l'information au fur et à mesure que vous faites des découvertes, là.
Tout à fait. C'est exactement ça. Puis on partage surtout qu'est-ce qu'on considère qui devrait être la priorité de recherche, puis où est-ce qu'on devrait collectivement faire nos efforts avec ça. On a, je vous dirais, une collaboration dans les réseaux de recherche en soins intensifs à travers le monde, que ce soit le réseau canadien de recherche en soins intensifs, le CCCTG, le groupe australien, nos collègues en Angleterre, une collaboration qu'on a, mais qui est encore plus grande en temps de pandémie, puis les gens s'entraident énormément pour qu'on réussisse à mettre de la science là-dessus rapidement.
Comment vous avez fait ça, ces découvertes-là, là, pour vous concentrer spécifiquement là-dessus? C'est-tu vous qui l'avez trouvé ici à l'Université Laval, ou si c'est le fruit, un travail collectif, ou si c'est ailleurs dans le monde, puis vous avez importé leur découverte? Comment ça a marché?
En fait, la recherche, c'est rarement une personne. Hein. C'est beaucoup plusieurs petites pièces de casse-tête qui sont mises les unes après les autres. Et à un certain moment, on se dit, ah bien, on a tel mécanisme, donc tel type d'intervention, ça tombe sous le sens que ça pourrait fonctionner. Donc, on commence à en discuter. On fait des petits essais cliniques là, très très simples pour voir une démonstration de principe. Et lorsqu'on voit que ça semble fonctionner, là, on en fait une étude à plus large échelle. Évidemment, dans la COVID, ça va très vite. Le fait de faire un essai clinique comme ça, ça fait qu'une personne reçoit l'intervention, l'autre personne ne reçoit pas l'intervention. C'est ça le principe d'un essai clinique. Ça permet d'éviter de revivre la situation de l'hydroxychloroquine il y a quelques mois où il y a des pays où tout le monde en a reçu avec les effets secondaires que l'on connaît, et ça nous a pris plusieurs mois plus tard pour savoir si que l'intervention était finalement pas efficace. Donc, quelque chose semble fonctionner, c'est facile. On aurait envie de dire, je vais l'utiliser chez tous mes patients, mais on pourrait créer peut-être ça fonctionne pas, ou on pourrait créer des effets secondaires. Donc, c'est pour ça que c'est très important de l'étudier de façon adéquate. Bien. Pour après ça être capable de dire ça marche chez telle personne, ou ça ne fonctionne pas, ou encore on a tel effet secondaire, mais en contrepartie on a tel effet bénéfique, donc ça reste en bout de ligne un consentement éclairé.
On a entendu parler cette semaine qu'il y avait eu une découverte qui avait mis l'emphase sur le talon d'Achille du coronavirus. J'imagine que ça n'a rien à voir avec les talons d'Achille qu'on a quand on a des problèmes. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le talon d'Achille du virus?
Ben en fait, écoutez, c'est un grand titre dans des articles récents là. C'est que le virus a, disons, une géométrie particulière avec des formes spiculaires qu'on appelle une protéine en forme de spicule qui est ciblée depuis plusieurs mois comme étant potentiellement attaquable, ou encore comment on pourrait s'y lier pour créer des médicaments. Donc il y a des collègues à travers le monde qui ont fait progresser la compréhension des protéines qui sont en lien avec la surface du virus. Donc je pourrais vous vulgariser ça comme ça, mais ça veut pas dire qu'on a trouvé nécessairement la réponse à tout, mais comme dans toute maladie, il y a plusieurs façons d'aller attaquer un virus ou attaquer une bactérie. Donc un virus, on peut l'attaquer en le neutralisant avec des anticorps, on peut l'attaquer en bloquant sa capacité à entrer dans nos cellules, on peut en traiter les complications et après ça faire en sorte que même si on est malade, on n'a pas trop de conséquences de ça. Donc il y a plusieurs façons de traiter les choses, puis l'important c'est de s'attaquer à plusieurs mécanismes. Et ce à quoi vous faites référence, en fait, ce sont des projets qui sont très embryonnaires et en laboratoire jusqu'à maintenant. Donc, ce sont plus des avenues potentielles futures pour des médicaments.
Parce que là, on comprend que beaucoup de chercheurs sont mobilisés de partout à travers le monde. On disait aujourd'hui là, qu'il y a plus de 30 milliards de dollars qui ont été mis là-dedans. Vous notamment, là, si vous avez reçu, je pense, 2 millions là, pour faire des recherches justement spécialisées là, sur ce que vous venez nous expliquer. Il y a comme un effort mondial, puis il y a comme un réseau qui vous ont mobilisé, là, parce que vous, à l'origine, si j'ai bien compris, vous étiez un médecin spécialiste en traumatisme crânio-cérébral, puis là, vous avez été mobilisé contre le coronavirus. J'imagine qu'un paquet de vos collègues de spécialistes ont aussi tous été mis à contribution pour combattre le virus, là.
Ouais, effectivement, en fait, on nous a nos gouvernements, nos organismes subventionnaires desquels on obtient nos subventions normalement pour faire nos recherches, nous ont demandé de focaliser nos recherches sur la COVID. Donc, moi, je fais de la recherche normalement en soins intensifs neurologiques. J'ai une chaire de recherche du Canada dans le domaine en traumatisme crânio-cérébral, et une équipe qui est prête et qui a l'expertise pour faire de la recherche multicentrique. Donc, comme les recherches
la recherche multicentrique, ça veut dire quoi, ça, là?
Ça veut dire des recherches dans plusieurs centres. Donc, à travers le Canada, j'en fais notre équipe en fait en Angleterre, en France, au Brésil. Donc, des études qu'on dirige de Québec,
mais
qui se passent dans plusieurs centres à travers le monde. Donc, l'équipe est là et tout est en veilleuse avec la COVID et donc on a tout redirigé notre énergie vers là avec notre réseau de recherche pan-canadien, ce qui nous permet d'être rapidement en mesure de faire un essai clinique comme ça qui normalement prend plus de temps que quelques mois à mettre sur pied.
Là, pour votre test sur le plasma, est-ce que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez besoin de gens qui ont eu la COVID et qui ont développé des anticorps. Donc, vous recrutez-vous des gens ici à Québec qui sont des gens qui ont été porteurs et qui ont guéri? Est-ce que ces gens-là, vous les mobilisez puis vous êtes en train présentement justement de prélever du plasma chez eux?
En fait, oui et non. La responsabilité de la collecte et de la distribution des produits sanguins au Canada est faite par deux organismes, au Québec par EMA Québec et à l'extérieur du Québec par le Service canadien du sang, Canadian Blood Services. Et donc, c'est une collaboration avec EMA Québec que je remercie énormément et avec Canadian Blood Services qu'on remercie, qui sont extrêmement aidants dans tout ça et qui, dans le fond, vont s'occupent de la collecte de sang. Donc, dans leur collecte de sang, on a fait des ententes avec eux pour être capable de reconnaître les gens qui ont eu la COVID et leur d'obtenir les consentements auprès de donneurs potentiels. Et eux font la collecte de plasma comme une collecte de plasma normale, sauf que cette fois-ci, c'est d'un malade qui a eu la COVID il y a un mois à peu près et qui a plus de symptômes et qui en est guéri. Et il y a une vérification pour savoir si la personne a ou non des anticorps et si c'est positif. Donc, on a donc des plasmas qui sont recueillis et qui sont congelés. Ça se congèle. Là, c'est un produit qui se garde quelques mois. Et donc, ça prend une collaboration de ces organisations-là. On ne peut pas créer des produits sanguins. Et évidemment, ça prend aussi dans les deux cas, les plasmas et les anticoagulants, ça prend l'autorisation de Santé Canada qu'on a obtenue pour faire ces études.
Là, on parle du sang, là, puis j'ai toujours entendu parler que la COVID, ça se transmettait par les gouttelettes quand on respire ou on parle. Est-ce que ça peut se transmettre aussi par le sang?
Écoutez, je vous avoue qu'on ne le sait pas. Fort probablement, mais dans les contextes, dans le contexte actuel, dans le contexte de produits sanguins, c'est un peu comme toutes les maladies qu'on peut avoir. Vous savez, le VIH, les hépatites, tout ça peut se transmettre par le sang. Donc, c'est pour ça que les produits sanguins sont extrêmement contrôlés tout patient qui donne du sang a des tests pour s'assurer que la personne n'a pas la maladie. Donc, tous les gens sont testés pour être négatifs et donc peuvent devenir donneurs par la suite.
Professeur Turgeon, vous connaissez pas mal plus en la matière que la moyenne des ours, là. Croyez-vous à ça, vous, qu'on va développer un vaccin dans les prochains mois ou dans la prochaine année?
Ben, je le souhaite, hein. J'aimerais ça avoir tous une boule de cristal. Puis je vous dirais, là, c'est ce que je souhaiterais le plus, c'est qu'il n'y ait plus de patients, qu'on ne puisse pas faire nos études parce qu'on va avoir un vaccin qui va nous avoir permis d'éradiquer le SARS-CoV-2 sur la planète. Mais écoutez, même si on a un vaccin dans un avenir rapproché, nous sommes de mémoire quelques milliards sur cette planète. Je pense qu'avant d'avoir vacciné, d'avoir une immunité collective, ça va prendre plusieurs mois, voire des années. Donc, je crois qu'on va vivre avec ce virus-là pendant plusieurs mois ou quelques années encore. Donc, on va avoir des vagues perpétuelles et puis on va les revivre. Donc, oui, je le souhaite. Est-ce que ça va être dans quelques mois? Je ne le sais pas.
Okay. Parce qu'il y a évidemment, il y a le médicament versus le vaccin. Il y a deux possibilités. Peut-être qu'un médicament, c'est peut-être plus réaliste à court terme, là.
En fait, le médicament, c'est comme le pont qui nous permet de freiner et de traiter, mais pas d'éradiquer. Alors que le vaccin va nous permettre d'éradiquer, on le souhaite, ou d'avoir un contrôle extrêmement important de la contagion. Donc, l'un va pas sans l'autre, mais on peut pas sortir d'un vaccin pour être en mesure de contrôler ça à l'échelle planétaire.
Il y a beaucoup d'auditeurs, là, il y a toujours le même débat depuis le début là, entre ceux et celles qui disent là, c'est une grosse grippe, puis c'est par définition c'est une grosse grippe, alors qu'il y en a d'autres qui disent ça n'a rien à voir avec la grippe, c'est beaucoup plus virulent. Puis quand on regarde les groupes d'âge, évidemment, on voit qu'il y a des nuances à apporter. Qui dit vrai là-dedans? Est-ce que c'est une grosse grippe ou est-ce que c'est bien pire qu'une grippe ou ça dépend de notre âge?
Écoutez, je vous confirme que c'est bien pire qu'une grippe. On a eu des gens dans la trentaine, quarantaine hospitalisés, très, très, très malades dans nos unités de soins intensifs, sur respirateurs. C'est un virus extrêmement dangereux avec un taux de contagion qui est de loin supérieur à celui de la grippe. C'est-à-dire, si on entre en contact avec quelqu'un, on a beaucoup plus de chances de l'attraper que quelqu'un qui a la grippe. Donc, plus de personnes sont malades et on est beaucoup plus malade. C'est sûr que dans tout, il y a des exceptions. On entend toujours parler de quelqu'un qui a eu une maladie puis ça n'a pas été si pire. Il y en a qui ont des formes un petit peu moins grandes, mais vous savez...
Des gens asymptomatiques, comme, là, c'est ça qu'on a compris
des,
aussi.
Ou des gens asymptomatiques ou des gens qui ont peu de symptômes, mais après ça, bien, on peut le donner à notre mère ou à nos grands-parents, dépendant de l'âge qu'on a, puis ce sont ceux-là qui s'en sortiront pas. Mais on a des jeunes qui s'en sortent pas aussi. Donc, c'est pas seulement une maladie qui est dangereuse pour les gens qui sont malades.
Mais j'ai compris, ça se peut-tu qu'il y ait 99 % de ceux qui meurent qui ont d'autres problèmes graves, puis que la moyenne d'âge, c'est 85 ans? C'est-tu possible, ça?
Écoutez, 99 %, ça me semble très élevé. Je peux vous confirmer qu'on a des décès chez des gens qui ne sont pas malades à la base, qui n'ont pas de maladie du tout. Donc non, ça ne touche pas seulement les gens âgés et ça ne touche pas seulement les gens qui ont des maladies chroniques.
Mais la moyenne d'âge est quand même très élevée.
La moyenne d'âge est plus élevée, en fait. C'est comme, vous savez, si je sais pas si vous avez une grand-mère ou des parents très, très âgés, lorsqu'on est ou connaissez des oncles, des tantes qui sont plus âgés, souvent quand on est en perte d'autonomie, en fin de vie, on va avoir aussi des limites sur les interventions qu'on veut avoir, et avec raison. Là, par exemple, si on a 96 ans, peut-être que de réanimer notre cœur ou d'être sur un respirateur, c'est peut-être quelque chose qui pas toujours adéquat chez tout le monde. Donc, c'est pour ça que la mortalité est peut-être un peu plus élevée chez les gens âgés, parce qu'à un certain point, les gens ont décidé d'eux-mêmes qu'ils n'iraient pas, ils ont des limitations d'intervention parce qu'ils sont déjà en perte d'autonomie puis en fin de vie, dans le fond.
Docteur Alexis Turgeon, médecin spécialiste à l'hôpital de l'Enfant Jésus du CHU de Québec, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue.
Ça fait plaisir, M. Duhaime.
Au revoir.
Au revoir.